Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous, et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, le grand journal, l'hebdomadaire d'Occitanie, que vous pouvez retrouver dans tous les bons kiosques à partir d'aujourd'hui. Et avec elle, comme tous les vendredis, pardon, on va égrener un petit peu les titres à paraître sur cette nouvelle édition. Bonjour chère Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour cher Bruno. Bonjour à tous.
Et alors, on commence cette une de La Marseillaise avec l'Occitanie qui gagne des habitants et dépasse désormais les 6 millions d'habitants.
Oui, tout à fait. C'est une région, l'Occitanie, qui est composée de 13 départements. Donc
oui,
c'est une très grande,
une grande région.
Et voilà, elle continue à avoir une dynamique démographique importante. Et donc, elle dépasse maintenant les 6 millions d'habitants. Mais il y a quand même deux locomotives qui expliquent aussi cette vitalité.
Oui.
C'est évidemment Toulouse et Montpellier. Et donc, dans ce dossier, on a essayé de voir quels étaient un petit peu ce qui provoquait l'attirance pour notre région, pour le département de l'Hérault, et puis surtout les défis qui sont à relever, notamment par les collectivités locales et les pouvoirs publics, pour répondre à l'arrivée de cette population supplémentaire, notamment en termes de services publics.
Mmh. À lire aussi dans cette nouvelle édition de La Marseillaise, la loi immigration qui sera contestée dans les rues dimanche 21 janvier, avec plusieurs rendez-vous dans l'Hérault et dans le Gard.
Oui, alors c'est une loi qui est encore en suspens, mais elle a été votée, je fais un bref rappel historique, le 10.
Oui, oui.
Petite histoire, mais grande conséquence et grand enjeu, on va dire, républicain, démocratique.
Oui.
Elle a été votée le 19 décembre, avec notamment avec la majorité macroniste, les voix de droite et d'extrême droite qui ont permis son adoption, mais elle n'est pas promulguée encore, et pour cause, puisque le Conseil constitutionnel va se réunir, va donner sa décision sur la régularité ou pas de la loi le 25 janvier. Donc cette date du 21 janvier est très importante. Il y a énormément d'organisations associatives, politiques, syndicales, citoyennes, de défense des droits sociaux, des libertés, qui appellent à de larges rassemblements ou manifestations. Donc, on donne bien évidemment tout le détail pratique de là pour les personnes qui veulent aller se joindre aux manifestations ou aux rassemblements.
Mmh.
Et surtout, on donne la parole à ceux qui se mobilisent. Et nous avons fait un partenariat avec Radio Divergence, avec l'émission Quoi de Neuf, une interview croisée, on va dire, entre Serge Ragazaki, secrétaire général de la CGT de l'Hérault, et Sophie Mazas, qui est la responsable de la Ligue des droits de l'homme et avocate, et qui nous explique en quoi cette loi immigration viole les principes constitutionnels.
Et vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur le www.divergence-fm.org dans la rubrique
Extrêmement
Quoi de Neuf. Oui, à écouter, vraiment. La Marseillaise donne un coup de projecteur aussi sur le Centre spatial de Montpellier, qui lance des nanosatellites pour participer à la protection de la planète. Waouh !
Oui, alors l'espace, on voit que l'espace, aujourd'hui, c'est un enjeu très important et on voit qu'il y a une domination, on va dire, de ceux qui ont beaucoup d'argent, mais il y a le service public encore, les universités. Et le Centre spatial de Montpellier, qui est rattaché à l'Université de Montpellier, lui, il a vraiment une démarche, on va dire, très citoyenne et d'utilité publique, puisqu'il conçoit des nanosatellites, c'est quand même quelque chose de très pointu et assez... Et montre toute l'utilité de l'espace au service de la protection de la planète.
Mmh.
Et une des dimensions aussi qui nous a fortement intéressé et que nous avons mis en avant dans un reportage, puisqu'on a pu visiter ce centre spatial, c'est qu'il y a des formations d'ingénieurs des pays du Sud, notamment je pense au pays le Sénégal, où il y a plusieurs élèves ingénieurs qui ont été formés et qui sont en capacité aujourd'hui de créer le premier nanosatellite pour permettre d'avoir aussi, pour, dans les pays du Sud, une maîtrise de ces technologies et donc une place aussi dans le grand enjeu de l'espace et de son utilité au service du développement de la planète et pas de la destruction.
Et oui. Et pour finir, chère Françoise, le coup de cœur culturel de la Marseillaise avec la rétrospective du photographe Paul Wolf, et c'était au Grand Pavillon Populaire de Montpellier.
Oui, alors c'est une comme le Pavillon Populaire, c'est gratuit.
Oui.
Donc
sur l'esplanade.
Voilà, c'est accessible et l'intérêt de cette rétrospective, c'est que on rentre de plein pied au-delà de la beauté des photos et puis de leur comment dire, de leur dimension historique, oui, sociologique sur une époque. Ce photographe allemand, Paul Wolf, pendant l'entre-deux-guerres, il a fortement contribué à démocratiser la photo auprès du grand public en utilisant des appareils Leica. D'accord. Et donc cette exposition est à découvrir au Pavillon Populaire de Montpellier. Et vraiment, on invite les auditrices et les auditeurs à aller se plonger dans ce pan de l'histoire tout court et de l'histoire de la photographie.
Mmh. Allez, à la une de la Marseillaise, chers auditeurs, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence cette une, donc Françoise, comme on le disait en introduction, avec l'Occitanie qui gagne des habitants et dépasse désormais les 6 millions d'habitants.
Oui, alors l'Institut national de la statistique, l'INSEE, a dressé le tableau démographique de la France et il a fait aussi région par région. Et donc, ce n'est pas vraiment une surprise que l'Occitanie continue à se peupler,
oui,
mais elle passe la barre symbolique des plus de 6 millions d'habitants. Et parmi les villes qui sont fortement dynamiques d'un point de vue de l'accueil de nouvelles populations, il y a la ville de Montpellier, qui, elle, franchit la barre des 300 000 habitants.
Eh oui.
Alors, c'est un dynamisme démographique qui va poser des défis de taille. Hein. C'est ce qu'on essaye, on tente d'expliquer dans ce dossier qui, au-delà des chiffres, on va expliquer un petit peu aussi pourquoi c'est important d'avoir ces données démographiques et les projections démographiques pour préparer les villes, les villages,
oui,
à l'accueil. Hein.
Oui, parce qu'il faut les loger, tous ces gens.
Alors, il y a la question du logement, il y a la question du transport, la question des services publics et puis de l'école, des écoles. Hein. Donc, les collectivités, il faut qu'elles puissent mener leur mission. Et puis, on a une réflexion quand même dans l'éditorial un peu politique, hein, c'est que on rappelle quand même que les dotations aux collectivités sont toujours contraintes et en baisse,
oui,
et qu'il faut aider, il faut vraiment mettre le paquet sur les services publics qui sont eux aussi très contraints par la loi d'airain de la réduction des dépenses publiques.
Oui.
L'outil statistique, il permet de préparer l'avenir. Alors, on a aussi des villes, je reviens sur Montpellier, qui anticipe comment ? Ben, en développant toujours les transports publics,
oui,
notamment avec la gratuité, ce qui est le but, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à des transports, en les développant aussi, puisqu'il va y avoir de gros investissements sur les lignes, ce qu'on appelle maintenant les trambus.
Oui.
De l'argent aussi qui va être donné pour l'hôpital public, ça aussi c'est très important. Et puis ça permet aussi de rappeler aux lecteurs et aux auditeurs qu'il va y avoir un document technique, mais qui est très important pour l'avenir, c'est ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme,
oui,
intercommunal.
Le PLUI.
Voilà, c'est le PLUI. Qui va déterminer de là où on va mettre du logement, de l'activité économique,
oui,
du service public, enfin. Et là, l'objectif, normalement, c'est à l'automne prochain qui devrait être proposé au vote des élus des 31 communes de la métropole de Montpellier,
mmh,
c'est de diminuer de 50% l'artificialisation des sols,
mmh,
et de faire en sorte qu'on puisse continuer à faire du logement et d'accueillir des entreprises et des services publics dans les 50% autre.
Et comment on fait alors sans cette artificialisation des sols avec tant d'habitants qui arrivent dans notre belle ville de Montpellier ?
Eh bien, ça demande peut-être de la densification, ça demande d'un partage équilibré du territoire, parce que le grand paradoxe aussi de ces études, c'est de montrer qu'il y a des lieux qui sont très prisés, et les lieux au bord du littoral, hein, c'est pas un scoop, hein. Et puis il y a des endroits qui sont moins habités, mais il y a aussi la question de développer les services publics aussi pour permettre à ces villages, à ces villes, d'avoir beaucoup d'habitants ou des habitants supplémentaires. Mmh. On prend l'exemple de la ville de Castelnau.
Oui.
Qui elle a une dynamique incroyable, mais parce que c'est pas elle est à côté de la ville.
Et oui, elle touche Montpellier.
Elle est très bien desservie, mais elle est passée en 6 ans, il y a eu un bond de plus 3,4% par an, d'augmentation de la population. Et c'est une problématique qui doit intéresser les citoyens. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de faire ce dossier. On parle aussi du Gard, puisque paradoxalement, la ville de Nîmes, elle, perd des habitants.
Et oui. Et ce dossier raconte-t-il un petit peu les raisons de cet amour pour notre région d'Occitanie ? Est-ce que ce sont les 300 jours d'ensoleillement, par exemple, à Montpellier, ou d'autres raisons ?
Alors, il y a la raison, il y a le solde migratoire, c'est-à-dire qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui arrivent que de personnes qui partent.
Oui.
Ce qui motive, il peut y avoir les études.
Oui.
Montpellier, 50% de la population a moins de 34 ans.
Ce qui est...
Voilà, donc il peut y avoir aussi le travail, la recherche du travail. C'est ça qui motive beaucoup. Et bien évidemment, l'ensoleillement et le fait d'être dans le sud, c'est une des motivations très importantes. À ce titre, on a l'interview très intéressante du géographe Emmanuel Vigneron.
Oui.
Alors, il est professeur à l'Université de Montpellier. Il est aussi personnalité qualifiée au Conseil économique et social et environnemental. Mmh. Et il nous dit qu'attention, c'est très bien de se réjouir de cette croissance, mais attention, on n'y peut rien. Il y a quand même des villes dans notre belle région d'Occitanie qui continuent, entre guillemets, un peu à s'étioler et à mourir. Et donc, il dit que c'est Toulouse et Montpellier qui grossissent notamment cette bonne dynamique de l'augmentation de la population, avec le poids aussi des fonctionnaires, de la fonction publique.
Oui.
L'objectif de lui donner la parole et puis du dossier, c'est de montrer aussi qu'il faut être nuancé et que une bonne dynamique démographique, certes c'est positif, mais il faut connaître le pourquoi de cette flambée, et puis surtout c'est quelque chose d'un peu d'inéluctable, donc il va falloir s'équiper pour pouvoir accueillir et surtout que les personnes puissent vivre dans de bonnes conditions.
Mmh. Bon, de toute façon, avec le réchauffement climatique, on est d'accord, les gens se dirigeront plutôt vers la Bretagne bientôt.
Hein. On verra ça, l'avenir nous le dira. Oui, tout à fait.
Allez, à lire aussi dans cette nouvelle édition de la Marseillaise, la loi immigration qui sera contestée et heureusement dans la rue ce dimanche 21 janvier avec plusieurs rendez-vous dans l'Hérault et dans le Gard.
Oui, alors la loi immigration, faut rappeler un petit rappel historique elle a été portée par le ministre de l'Intérieur qui a été confirmé dans ses fonctions dans le nouveau gouvernement Attal. Mmh. Elle a été votée à l'Assemblée nationale. C'est une loi présentée par le gouvernement, votée grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. Et cette loi, elle contient des dispositions qui sont de l'avis des constitutionnalistes, mais pas que. Hein,
mais même de l'avis du gouvernement lui-même.
Voilà, même de l'avis du gouvernement anticonstitutionnel. Donc ce qui est gravissime, c'est-à-dire qu'on a voté en connaissance de cause une loi qui allait contre les principes fondamentaux. Et le premier des principes fondamentaux, un des premiers principes fondamentaux de notre République, c'est l'égalité.
Oui.
L'égalité. Donc, on a de nombreux syndicats, d'associations, des partis politiques de gauche, bien évidemment, puisque la droite est pour la loi et l'extrême droite, elle a applaudi des deux mains, qui appellent dans un appel unitaire à se mobiliser en nombre pour exiger le retrait de cette loi. Parce que pourquoi le 21? Pourquoi un dimanche déjà? C'est pour permettre à un maximum de personnes de venir manifester.
Oui.
Pourquoi le 21? Parce que le 25, dans la semaine à venir, le Conseil constitutionnel, qui est le garant donc de la conformité des lois, des textes à la Constitution et donc à ses principes fondamentaux, doit se prononcer. Donc c'est une date majeure. Il y a énormément de personnalités, mais on peut dire que toutes les forces vives progressistes sont vent debout contre cette loi et demandent au président de la République de ne pas la promulguer.
Oui.
Ce qui est grave et ce que nous explique aussi dans nos colonnes, puisque on fait le compte-rendu de la formidable émission Quoi de neuf qui est donc diffusée sur Divergence en partenariat avec nous, la Marseillaise. Donc on a Serge Ragazzafi qui est donc le secrétaire général de la CGT et de l'Hérault, et Sophie Benzaz, qui est la présidente de la Ligue des droits de l'homme et qui est avocate, qui nous explique dans cette émission très intéressante sur les pourquoi avec cette loi des digues ont sauté.
Oui.
Et notamment la digue politique institutionnelle qui est de faire des lois, de les faire voter en sachant qu'elles vont être anticonstitutionnel et ça fragilise les principes fondamentaux qui peuvent être remis en cause.
Oui.
Ensuite. Hein. Et ce que nous dit Sophie Mazas, ce qui est très intéressant, c'est que pour avoir la connaissance aussi de ce qui se passe en Europe, hein, on n'est pas un petit îlot isolé de cette... Elle parle de lame de fond.
Oui.
Sur ce recul de l'état de droit.
Mmh.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on revient très largement sur ce dossier majeur, surtout que d'un point de vue, c'est vraiment une loi très idéologique, parce que quand une loi, par exemple, oblige les étudiants, parce qu'ils sont étrangers,
oui,
à poser une caution,
oui,
de retour, histoire de dire surtout vous ne resterez pas après, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied au niveau du savoir, de la recherche. On voit que de l'université, le principe universel de l'université, et on ne peut pas dire que la présence des étudiants étrangers soit un problème.
Oui,
en France. Hein. Idem, si demain on empêche les travailleurs étrangers de travailler dans de bonnes conditions,
oui,
et d'être bien rémunérés.
Mais les marchés se retrouveront vides, les étals des marchés seront,
oui,
vides.
Et puis on va accentuer le travail clandestin,
oui,
dissimulé. Quand on conditionne à la nationalité le fait d'avoir ou pas des allocations, là, dans la loi, on fait rentrer une des propositions majeures du Rassemblement national.
La préférence nationale.
Absolument. Voilà, donc ça, c'est dans la loi. Et donc, on pourrait égrener tous les articles qui font que cette loi, elle est extrêmement dangereuse, et que le 21 janvier, là, ce dimanche, c'est une étape importante, hein, et qu'il faut vraiment un sursaut. En tout cas, la Marseillaise, on est sur cette ligne-là, et on est, c'est pour ça qu'on en consacre quand même de longs articles pour justement participer aussi à cette alerte citoyenne.
La Marseillaise donne aussi un coup de projecteur, sur le Centre spatial de Montpellier qui lance des nanosatellites pour participer à la protection de la planète. Qu'est-ce que c'est, Françoise ?
Alors, l'espace, c'est pas que Elon Musk, hein, voilà.
Et oui,
et tant mieux, parce que le Centre spatial de Montpellier, il est spécialisé dans le lancement des nanosatellites. Et donc, c'est vraiment une référence, hein, en France, en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que il crée des nanosatellites. Alors c'est on a dans le journal des photos. Hein,
de, ouais. Oui, c'est, donc, ça allait être ma question. Qu'est-ce que vous appelez nanosatellites? Est-ce que ce sont des vraiment petit. Des tout petits en grammes ou quelques kilos?
C'est un format cubique de 10 cm de côté. Ouais. Voilà. Ils sont envoyés dans l'espace, hein, donc ils sont costauds quand même. Hein.
Ouais.
Et ils sont après observés dans la salle de contrôle. Hein, et ils peuvent suivre la trajectoire de ce nanosatellite sur un planisphère qui est interactif.
Ouais.
Et à quoi ils servent? Ils servent par exemple à prévenir ou à mieux déceler, par exemple, les épisodes de Sevenol.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est un autre, ça il va être bientôt lancé. Alors il a un nom, il s'appelle Robusta 3A. Voilà.
Ce n'est pas une marque de café.
non, normalement, il devrait être envoyé via Ariane 6. Hein,
oui.
Et ça va permettre, c'est un partenariat avec Météo France pour mieux prévenir, mieux connaître l'arrivée des épisodes Sevenol qu'on appelle aujourd'hui les épisodes méditerranéens et qui provoquent des inondations. Et ce que nous expliquent les responsables du Centre spatial de Montpellier, c'est que sans l'espace et sans ces satellites, on ne connaît pas, on pourrait pas connaître l'état de la planète. Hein.
D'accord.
Par exemple, 80% des paramètres mesurés par le GIEC, hein, le groupe sur le climat, ils ne peuvent l'être que par l'espace.
D'accord.
C'est comme ça qu'on peut mesurer l'évolution du trou dans la couche d'ozone. C'est mesuré par des satellites. Mmh. La pollution, elle est vue depuis l'espace.
D'accord.
Voilà, et en fait, que Laurent Dussault, qui est le directeur du Centre spatial de Montpellier, nous dit que le spatial, il permet vraiment de faire quelque chose de plus et de plus grand au service de la planète.
Mmh.
Et puis, il y a une dimension aussi extrêmement intéressante qui est menée, qu'on peut souligner, c'est que le Centre spatial de Montpellier travaille aussi avec les pays du Sud pour former les ingénieurs de ces pays.
Oui.
Par exemple, il y a eu Djibouti, il y a eu le Sénégal, il y avait donc une promotion complète d'ingénieurs de ces pays qui a été formée pendant un an. Ils sont restés deux ans de plus, on parlait des étudiants étrangers, mais voilà, un bel exemple. Hein. Et donc, au final, le premier satellite sénégalais va être lancé au mois de mars.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a aussi la dimension coopérative. Voilà. Et comme on souligne aussi dans l'article, il n'y a pas que les pays riches qui ont le droit d'avoir une agence spatiale.
Et oui.
Voilà. Donc, c'est très intéressant. On a eu la grande chance de pouvoir visiter le centre spatial de Montpellier. Et ça montre son utilité. Et puis, le fait que la science est au service du bien commun, on va dire, et du bien-être de notre planète qui est fortement menacée par notamment le réchauffement climatique.
Mmh. Oui, et puis il se passe plein de choses dans ce centre spatial. Il y a peu, dans Allume la science, notre émission scientifique en partenariat avec l'UM de l'Université de Montpellier, nous recevions un chercheur qui, en partenariat avec la NASA aussi, allait envoyer des poissons sur la Lune. C'est quand même fantastique.
Ah ben voilà, Donc c'est passionnant.
Allez, pour finir, chère Françoise, le coup de cœur culturel de la Marseillaise avec la rétrospective du photographe Paul Wolf. C'est au pavillon populaire de Montpellier.
Oui. Alors, c'est un photographe, Paul Wolf. Évidemment, son nom ne nous parle pas à nous. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas assez calée en histoire de la photographie. Mais c'est un grand photographe très populaire pendant l'entre-deux-guerres. Hein. Et donc, il y a une rétrospective. Ce qu'il y a de génial avec les rétrospectives, c'est que on a vraiment un panel de tout le travail d'un artiste, en l'occurrence de ce photographe, qui était surnommé l'homme au Leica.
Oui, Leica, c'est la grande marque d'objectifs.
Exactement. Et il a popularisé, il a démocratisé la pratique de la photo, parce que c'est des appareils qu'on pouvait transporter facilement.
Oui.
Et il donne donc à voir ce qui était notamment l'Allemagne entre les deux guerres. Hein. Évidemment, ce sont des photos assez, on va dire, un peu bucolique, puisqu'on n'est pas encore dans la crise sociale, politique, et puis l'ascension du nazisme qui va plonger l'Europe après dans l'horreur. Et donc, on a des images de la vie quotidienne, c'est ça aussi qui est intéressant. Mmh. C'est un noir et blanc formidable. Et donc, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut le visiter et aller le revoir tant qu'on veut, puisque c'est toujours gratuit. Et donc, c'est un photographe, on va dire, de l'intime, du quotidien, avec des photos. On en publie quelques-unes, hein, puisque on fait une page photo, on voit des personnes faire du stop, le premier bain, du saut à ski, voilà, un pangolin.
Ah non, donc, pas le pangolin.
C'est une très belle photo. Donc il a fait ça vers les années à la fin des années 20. Voilà, donc et donc il y a aussi l'histoire quotidienne de l'entre-deux-guerres, et puis il y a l'histoire de la technologie de la photo, puisque on est quand même au premier pas de la photo, hein, on n'est pas encore, mais il va donc par ses expos, par son travail, commencer à populariser cet art qui est à la fois un art et puis pas un art, puisque on sait qu'on prend des photos, on a pris des, il y a des photos de notre vie, des événements.
C'est un art du souvenir.
Voilà, exactement, tout à fait, c'est très juste ça. Et il va révolutionner, c'est un peu un chaînon dans l'histoire de la photographie, Paul Wolf. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est une exposition à plusieurs tiroir, si je puis dire, et à plusieurs dimensions. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas documenté, hein, ce que souligne Gilles Morat, donc qui est le responsable du Papillon Populaire, c'est que la barbarie nazie n'est pas documentée.
D'accord.
Et donc, il explique que tout ce qui est à de plus d'exécrable, Wolf l'élimine, car il a horreur de la violence, de ce qui est excessif. Bon, ça c'était lui, c'est pas édulcoré, ça n'y est pas.
D'accord.
Voilà. Mais c'est quand même dit, c'est quand même raconté, contextualisé, comme on dit aujourd'hui, par le commissaire de l'exposition. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y aller. On a le temps, c'est jusqu'au 14 avril. Et c'est gratuit.
Oui, et puis on peut noter aussi que chaque exposition au Pavillon Populaire sont de très bonnes factures.
Complètement.
Et ben voilà, tout est dit, chère Françoise.
Oui, alors il y a d'autres choses à lire, mais je crois qu'on a donné quand même un beau panorama. J'insiste sur un sujet aussi qu'on n'a pas eu le temps de développer.
Oui.
C'est qu'on a une étude on fait un papier sur une étude du docteur Xavier Bobia, qui est chef de service au CHU de Montpellier aux urgences.
Oui.
Et cette étude, qui a de dimension nationale, hein, elle est très inquiétante. Elle montre que les femmes et les personnes racisées sont moins prises au sérieux quand elles arrivent aux urgences.
Ah, même aux urgences, d'accord. C'est grave.
Allez, surtout aux urgences.
D'accord, surtout aux urgences. D'accord.
Voilà. Donc, j'invite vraiment les lecteurs à découvrir aussi cette étude. C'est un constat, mais il y a des outils pour, évidemment, lutter contre cette discrimination à l'hôpital.
Chère Françoise, j'invite aussi les auditeurs à se joindre sur le site de La Marseillaise, le www.lamarseillaise.fr. Et quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle une de ce beau journal d'Occitanie qui est La Marseillaise. À bientôt, Françoise.
À très bientôt.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.